FranceBleu.fr. France Inter.
La voix est libre.
15h03 sur France Inter, là-bas si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet.
Tout le week-end, on a assisté dans les médias à un grand débat pour ou contre les radars. Moi, personnellement, je suis pour. Tenez, en un an, ça a permis qu'on flash plusieurs fois François Hollande à plus de 200 km/h. Et en plus, il était à pied. Et en plus, il était à reculons. Bon, faut dire que face à lui, il y avait des patrons, ceci expliquant peut-être cela. Enfin, n'empêche, il serait temps de lui foutre une amende.
Salut Daniel, c'est Olivier de la France d'en bas, tu sais. Et là, je vois que tout le monde se scandalise parce qu'on a foutu 120 millions d'euros en l'air pour faire plaisir à une bande de petits jujus avec des pompons sur la tête. Bon, moi ça me scandalise qu'on claque autant de pognon, mais ce qui me scandalise aussi, c'est qu'apparemment la marine continue à chier dans la mer, comme elle a toujours fait en fait, parce que tu vois, moi... J'ai fait partie de la plus grande organisation criminelle internationale, l'armée, et c'était aussi dans la marine à l'époque, il y a 30 ans de ça, et à l'époque, bon, l'environnement, tout le monde s'en secouait, et le genre de truc qu'on voyait, c'était que tout le matériel électronique qui était niqué, ça se balançait par-dessus bord. Quand un avion décolle d'un porte-avions, c'est les réservoirs pleins. Quand il se repose, il faut que les réservoirs soient vides. Enfin, je sais pas, je pense que les gens ont facilement l'idée de la quantité de merde qui est répandue dans la mer, quoi. Voilà, c'est... comme ça que ça se passe dans ce genre de milieu, parce que c'est au-dessus de tout dans la grande muette. Hein. On peut se permettre à peu près de faire ce qu'on veut, il n'y aura personne pour gueuler.
D'abord bonjour, oui, je voulais simplement te dire merci, parce que j'ai pas pu aller à cette marche du 5 mai à Paris. Mais en t'écoutant là pendant une heure, j'ai cru que j'y étais, avec les œillets rouges peut-être dans les cheveux, et le chiffon rouge autour du cou. En tout cas, merci pour tout, et... bon courage au Fralib. Au revoir.
Oui, salut, encore une belle émission de Propaganda Staffel. Vive le grand homme, vive Mélenchon, vive le parti de gauche et tout ça. On se croirait dans les années 30, là, hein, où tout le monde défile, là, voilà. Oh, moi, j'y crois plus, vos conneries, là, moi, j'y crois plus du tout. Mermet, Mélenchon, pour moi, c'est pareil, c'est le même combat, je ne crois pas, je vous crois plus, les gugus, là, je vous crois plus. C'est bourrage de crâne, j'en ai ras-le-bol. Et puis, si on devient Mermet, j'applaudirai. Voilà. Il y a un grand coup de balai à la radio aussi, hein. Un grand coup de balai.
Bon sang, mais arrêtez de dire qu'il faut attendre les prochaines élections pour voter autrement. Il y a combien de décennies que l'on attend? Bon, alors, l'objectif, c'est quoi? Le seul, le vrai à atteindre, c'est l'annulation de la dette, l'assainissement des finances et des banques. Et comment? Eh bien, c'est comme ça qu'on parle à Toulouse, en agissant groupés, tous ensemble. Réalisons que cette dette, c'est aux riches qu'on la doit, c'est-à-dire à ceux qui ont prêté de l'argent. Seulement, plus cette dette, entre parenthèses, contractée par des riches gouvernants, plus cette dette dont nous appauvrit, plus elle enrichit les riches, prêteurs, et vice-versa. Réunissons-nous tous contre ceux, c'est eux, qui fait notre malheur, et réclamons l'arrêt de la dette et l'assainissement des finances et des banques.
Bon, Daniel, ça va plus, hein. Je m'inquiète pour toi, parce que, bon, déjà, l'Angleterre, en Angleterre, ils ont un temps pourri. Après, les démantèlements de carcasses de bateaux à l'amiante, c'est limite. Ken Loach, c'est pas toujours très drôle non plus. Et puis Paris avec Mélenchon, j'ai rien contre Mélenchon, mais Paris, c'est Paris, quoi. Donc, comme je m'inquiète beaucoup pour toi, je te propose d'aller faire un petit tour en Polynésie française. Les alizés, les fleurs de tiare, les tamarins et les flosses. S'il te plaît, Daniel, raconte-nous l'histoire de Gaston Flosse.
Tu n'as pas marre de dire toujours le même refrain? Tu connais l'histoire de la langue des opes, le meilleur et le pire. Tu vois ces gens qui collent n'importe quoi après Sarko. Eh bien, il y a Hollande, après Hollande, il n'y a pas Mitterrand, il y a eu Giscard. Bon, mais moi, je vous demande une chose, change de disque. Allez, Marine Le Pen, viens essayer, voir, tu vas voir, ils seront gentils pour toi. Essaye. Vive Marine Le Pen.
Oyez, oyez, citoyens, citoyennes, une initiative citoyenne européenne est lancée depuis le 23 mars dernier. Elle a pour but de récolter 1 million de votes d'ici 2014 sur le concept d'un revenu de base inconditionnel versé dès la naissance et cumulable à tout autre revenu. Le Monde diplomatique nous offre ce mois-ci un très bon dossier sur le sujet. Rendez-vous donc sur revenudebase.info. Donc, signons cette pétition pour un revenu de base. Un revenu de base pour une vie digne. Décolonisons notre imaginaire. Adhérons à cette superbe idée. Signons cette pétition. À bientôt. Ciao.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Et ce dernier message qui tombe très très bien, parce que c'est l'un des sujets dont nous allons parler aujourd'hui même avec l'équipe du Monde Diplomatique. Revenu de base, revenu inconditionnel, revenu garanti pour tous. C'est Coluche qui disait, le travail, moi je peux m'en passer, le salaire me suffit. À l'heure où chaque jour en France, 1000 personnes s'inscrivent à Pôle emploi, ça peut paraître un peu déplacé ou provocateur de parler ainsi. Ou bien ça peut sembler être le moment de reformuler une critique de l'idéologie du travail et à réfléchir sur le revenu d'existence. Dans les années 60, il y a eu toute une réflexion comme ça sur le travail, perdre sa vie à la gagner, ne travailler jamais, il y a eu des chansons, etc., qui avaient abouti à ce film culte, L'An 01. Depuis, ces idées ont fait leur chemin. À un moment, à la fin des années 90, on parlait beaucoup de ça, et puis ça, à nouveau, ça s'est éloigné. En tous les cas, aujourd'hui, ça revient dans le monde diplomatique avec plusieurs papiers tout à fait intéressants. Il y a d'autres papiers dans le diplo de ce mois de mai, notamment une réflexion sur le journalisme d'investigation, le journalisme qui dénonce les bavures, les dysfonctionnements et qui met les méchants et les tricheurs et les voleurs au pilori, mais sans jamais ou très rarement, très 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 rarement, mettre tout le système en cause. Serge Aliminella, Pierre Rimbert, Benoît Bréville, Anne-Cécile Robert autour du micro de la Basse J'y suis, tenu par qui donc, Guy Vantil soi-même. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, allô, bonjour. Je suis une salariée de la maison de retraite SAS Harmonie à Nice Residencia. Le personnel en grève pour leurs droits et ceux des résidents, jour et nuit, depuis lundi 29 avril 2013 à 7h du matin. Aujourd'hui, on se bat pour le bien-être du personnel et des résidents. Ça ne fait pas de nous des feignants. Ici, on souffre de cette maltraitance qui se passe sous nos yeux et dans cette impuissance. Aujourd'hui, on veut que cela cesse. C'est pour cela que tous ensemble, on manifeste. Ici, c'est la France, le Cap-Vert, le Cameroun, la Roumanie, le Portugal, la Somalie, la Réunion, les Malgaches, l'Algérie, la Tunisie, la Croatie. Ici, la solidarité prime sur le bénéfice. Nous, on n'en vit pas vos millions. On se bat et on a raison. Contre ces mauvaises conditions, une seule solution, la manifestation. C'était le slam d'une salariée en colère.
Bonjour Daniel et tous les auditeurs. N'oubliez pas la chaîne humaine contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ce samedi 11 mai. Venez dès 11h pour la mise en place de la chaîne sur 25 km autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une photo sera prise à 14h. Des concerts auront lieu les vendredis et samedis soirs. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site internet en tapant chaîne humaine NDDL. La manifestation sera festive, venez en famille. Je vous dis à samedi, c'était Anne-Gaëlle de Guérande où un comité de soutien a été créé.
Oui, bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis. Je suis une fidèle auditrice de vos émissions que j'apprécie beaucoup. Là, je suis en train d'écouter l'émission de ce lundi. Je viens d'entendre un propos du collectif Résistance à La Réunion disant que le créole est interdit à l'école, qu'il est complètement dénigré. Alors là, je tiens quand même à vous dire, attention, attention, contre-vérité. Il existe des cours de créole dans tous les collèges et le CAPES de créole a été créé, je pense, en 2002, si je ne m'abuse. Et le créole est officiellement enseigné à l'école. Il y a des certifiés de créole qui enseignent le créole exactement comme en Guadeloupe où je suis actuellement. Le créole guadeloupéen est enseigné et il y a des professeurs certifiés de créole guadeloupéen. Donc il faut se méfier de certaines contre-vérités qui sont dites et qui pourraient éventuellement discréditer le sérieux de vos propos.
Ces méchants ouvriers, on en parle depuis des semaines pratiquement, font perdre de l'argent au patron avec ces ponts à rallonge. transformée en viaduc. Moi, je propose une chose. Application immédiate et rétroactive sur 10 ans. Suppression du mois de mai. Allez, salut à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Ventil et l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Nous voici à nouveau dans les locaux du Monde Diplomatique pour ce numéro de mai 2013. Un numéro très riche, je tiens à vous le dire, Serge Halimi. On a choisi 5 articles, mais on aurait pu en choisir autant d'autres. Et il y en a plein dont on ne va pas parler, par exemple celui sur les émissions de télé-réalité et de cuisine. Alors on se dirait, qu'est-ce que ça fait dans les pages du Monde Diplomatique? Et pourtant si, c'est très judicieux, puisque ça nous montre comment la logique managériale s'impose dans les inconscients en parlant de recettes de petits pois gourmands et ainsi de suite. Aussi des articles sur Haïti, sur l'électricité verte, sur les ambitions de Pékin, un article de Philippe Ponce sur Pyongyang et un gros dossier aussi sur le Kurdistan. Voilà tout ce dont nous n'allons pas parler dans cette émission à l'occasion du Monde Diplomatique de ce mois de mai. Commençons par vous, Serge Halimi, si vous le voulez bien, puisque vous avez particulièrement travaillé cette fois-ci. C'est pas juste un petit édito en première page, mais un gros dossier, un état des lieux pour préparer une reconquête.
Oui, oui, cette fois-ci, j'ai décidé de me mettre au travail, mais je vais bientôt arrêter puisqu'on est en train d'imaginer aussi un revenu garanti pour tous, y compris pour ceux qui cesseraient de travailler.
Ça, c'est le dossier dans lequel on viendra tout à l'heure.
C'est le dossier dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, j'ai essayé de réfléchir pour voir si on pouvait discerner quelques caractéristiques générales qui s'appliquent à la marge du monde. C'est pas facile, mais on peut essayer. Et au-delà de tous les discours, parfois exacts d'ailleurs, sur la montée de l'Asie, le déclin de l'Occident, l'irruption des nouvelles technologies, je crois qu'on constate trois phénomènes majeurs. Le premier, c'est l'essor vertigineux du nombre des riches et de leur fortune, la flambée des inégalités. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère depuis une vingtaine d'années et il prend une tournure qui est presque pathologique. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est le caractère de plus en plus factice de la démocratie politique, représentative, de la souveraineté populaire. Et la dernière caractéristique me semble être la mise en cause de la souveraineté nationale par le FMI, la Commission européenne, les agences de notation, les marchés financiers. Donc commençons par la flambée des inégalités. Désormais, on observe la montée de fortunes colossales, dépassant l'entendement, et qui sont relativement nombreuses. Avant, il y avait un milliardaire par pays, et puis beaucoup de pays n'en avaient pas. Là, maintenant, il y a quand même 63 000 personnes dans le monde, dont 18 000 en Asie, 17 000 aux États-Unis, 14 000 en Europe, qui détiennent plus de 100 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 80 millions d'euros. C'est une somme colossale et elle est donc détenue par 63 000 personnes. Et ensemble, ces 63 000 personnes détiennent une fortune cumulée de 39 900 milliards de dollars. Alors je sais bien que la somme ne veut rien dire pour la plupart de vos auditeurs, ni même pour nous à vrai dire, sauf quand on la met en rapport à ce qu'est la richesse produite en une année sur Terre, eh bien ces 39 900 milliards de dollars correspondent à plus de la moitié des richesses produites en une année sur la Terre entière. Et elles sont donc réservées à 63 000 personnes. C'est de plus en plus la loi du sport, celle du gagnant prend tout. Vous savez, c'est bien d'être le premier joueur de tennis, mais quand vous êtes le 150e, même si vous êtes presque aussi bon que le premier, eh bien en termes de contrat, en termes de sponsors, etc., vous n'obtiendrez pas grand-chose. Eh bien là, maintenant, en économie, c'est de plus en plus cette loi du gagnant prend tout qui s'impose, au point que la famille Walton, qui est propriétaire de Walmart, vous avez beaucoup parlé de Walmart, c'est cette immense chaîne de supermarchés.
Numéro un mondial,
etc.
Avec le plus de salariés qui ne sont pas des salariés, puisque ce sont des associés.
Ce sont des associés qui ne sont pas syndiqués, puisque aux États-Unis,
Walmart
n'accepte pas les syndicats. Donc ils vendent des produits qui sont destinés à la consommation courante et qui sont souvent des produits bas de gamme. Mais la fortune des propriétaires du groupe n'est pas du tout bas de gamme. Elle a toujours été importante, puisqu'il y a une trentaine d'années, il possédait 61 992 fois le chiffre a été calculé, la fortune d'un Américain moyen. On peut se dire 61 992 fois la fortune d'un Américain moyen, c'est pas mal, c'est assez. Eh bien non, c'est pas assez, puisque aujourd'hui, cette même famille possède 1 157 827 fois la fortune d'un Américain moyen. Au point que si on compare sa fortune non pas à l'Américain moyen, mais aux Américains les plus pauvres, le patrimoine des Walton est aussi important que le patrimoine des 48 800 000 familles américaines les plus pauvres. Vous voyez, c'est ce que je disais, on est à un stade où le terme de pathologie s'applique.
D'autant, je vous coupe deux secondes, ces Walton-ci sont des héritiers.
Sont des héritiers, absolument.
Ils n'ont absolument rien fait pour construire cette fortune.
Absolument, mais on verra tout à l'heure que cette loi des héritiers, on la retrouve ailleurs. En Italie, même phénomène, les 10 premières fortunes nationales détiennent autant que les 3 millions d'Italiens les plus pauvres. Et en Inde, où vous avez aussi des milliardaires en dollars, vous en avez 61 qui détiennent à eux seuls 22% des richesses du pays, un pays où il y a pourtant plus d'un milliard d'habitants. Alors, on a souvent dit ici que cette flambée des inégalités avait été le résultat non pas d'un miracle de la nature, mais de politiques publiques, les privatisations, le libre-échange, la financiarisation de l'économie, la démolition des syndicats, etc. Je n'y reviens pas.
Ça, c'est les éditos des mondes diplomatiques des dernières années.
C'est pas seulement les éditos, c'est aussi les enquêtes, c'est aussi les analyses, ce sont les études. L'éditorial est une manière de prendre position, mais à partir de données qui ont été observées et documentées un peu partout dans le monde. Le deuxième élément qui me paraît donc important, c'est la mise en cause de la démocratie politique. On constate depuis quelques années que les décisions publiques ont non plus seulement durci la structure inégalitaire des pays, mais qu'elles ont mis en cause leur fonctionnement politique démocratique. En théorie, vous le savez, l'économie fonctionne de manière censitaire. C'est la loi du 1 dollar ou 1 euro égale une voix. Si vous êtes plus riche, évidemment, vous pesez davantage dans le fonctionnement de l'économie. La politique, elle, théoriquement, n'est pas censitaire. Puisqu'avec elle, c'est la loi du suffrage universel qui s'exprime, un homme ou une femme égale une voix, qu'il soit riche ou qu'elle soit pauvre. Or, cette distinction entre économie et politique est de moins en moins pertinente. Les lois de l'économie débordent sur la politique, comment ? Eh bien, les politiques économiques qui ont été pratiquées, un peu partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis et en Europe, mais aussi en Russie, en Inde, en Chine, et sur ce plan, le basculement du monde vers l'Asie n'a fait aucune différence. Ces politiques économiques ont créé et ont consolidé une caste de privilégiés. En Chine, par exemple, où le revenu annuel moyen excède à peine 2500 dollars, le Parlement compte 83 milliardaires. Le Parlement chinois, dont les membres sont adhérents du Parti communiste. Une caste de privilégiés, oui, car désormais les privilèges se transmettent de manière héréditaire. C'est ce que vous observiez tout à l'heure à propos des Walton, grâce à la chute brutale des droits de succession et grâce aux techniques d'évasion fiscale. Avant, l'État prélevait quand même une part assez importante des fortunes au moment de leur transmission, ce qui est de moins en moins le cas.
Et c'est ce qu'a voulu éviter Bernard Arnault avec son exil raté en Belgique,
absolument,
le pauvre.
Qui lui permettait de payer des taux d'imposition de 5 ou de 10%, là où il aurait dû payer 4 ou 5 fois plus. On a appris la semaine dernière, la même semaine en France, par exemple, que Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère, venait personnellement d'empocher 113 millions d'euros après avoir vendu ses actions de ADS. Et la même semaine, on apprenait que Delphine Arnaud, fille de Bernard Arnault, allait entrer au conseil d'administration de Havas et qu'elle y retrouverait Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré. Autant de confirmations supplémentaires que pouvoir et fortune sont très largement héréditaires. Cette caste de privilégiés, héréditaire ou non, investit l'État. Au double sens du terme investir, elle occupe l'État, la politique, et elle l'occupe pour en tirer un profit. Elle investit dans la politique. Pour le dire autrement, grâce à leurs grosses fortunes, les grosses fortunes obtiennent de grosses influences. Et grâce à leurs grosses influences, ces grosses fortunes encouragent les politiques économiques et sociales qui leur permettront d'accroître un peu plus leurs fortunes.
C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux.
C'est un cercle, voilà, vertueux. C'est la définition même du cercle vertueux. Ces politiques qui leur permettront d'accroître leur fortune, c'est une fiscalité accommodante, mais aussi des privatisations avantageuses, des concessions de travaux publics. Ainsi, le Mexicain Carlos Slim,
numéro 1 mondial,
numéro 1 mondial en termes de fortune, est devenu numéro 1 mondial parce que, au Mexique, l'ancien monopole public des télécommunications a été acquis par Carlos Slim, qui est maintenant à la tête d'un monopole privé. Et il y est parvenu grâce à l'appui de l'État mexicain, qui ne pouvait rien lui refuser et qui d'ailleurs envisage à présent de s'attaquer à lui, parce qu'il y a un moment où trop, c'est trop.
Qui sont-ils les gens qui sont riches? Sont-ils plus que moi qui n'ai rien? Je cours, je vais, je vire, je viens. J'ai pas peur de perdre ma fortune. Je cours, je vais, je vire, je viens. J'ai pas peur de perdre mon bien.
Ce poids disproportionné des riches dans le système politique vient d'être étudié très précisément aux États-Unis. Un institut a constitué les Américains en deux groupes. Les riches, ceux qui ont plus de 1 million de dollars de revenus par an, et les autres. Et a interrogé ces deux groupes pour leur demander ce qu'ils souhaitaient en matière de politique publique. En matière de politique étrangère, elle a observé que ces deux groupes avaient des préférences à peu près identiques, qu'il n'y avait pas de grande différence entre les riches et entre les autres. En revanche, lorsqu'il s'agissait de politique économique et sociale, les différences étaient particulièrement nettes. Ainsi, vous avez 78% de l'ensemble des Américains qui estiment que le salaire minimum devrait être indexé sur le coût de la vie et permettre à son détenteur de ne pas devenir pauvre. Chez les riches, ils ne sont que 40% à partager ce sentiment. Les riches se montrent également moins favorables que l'ensemble des Américains aux syndicats et aux lois qui pourraient favoriser leur essor. Contrairement aux plus riches, la majorité des Américains aimerait que le capital soit taxé au même taux que le travail. Et elle accorde, cette majorité des Américains, une priorité beaucoup plus grande que les riches à la lutte contre le chômage qu'à la lutte contre les déficits. Une majorité des Américains, 53%, estime même que l'État devrait procurer un emploi à quiconque est capable de travailler et ne trouve pas d'emploi dans le secteur privé. Lorsque vous interrogez les riches, les plus de 1 million de dollars par an, ils ne sont que 8% à partager cette idée. Salaire minimum, droit syndical, fiscalité, lutte contre le chômage, on voit que le choix de la majorité diffère très sensiblement du choix des plus riches. Selon vous, qui l'emporte dans un système démocratique ?
La majorité.
Eh bien non, pas la majorité.
Ah, je n'avais pas tout lu l'article.
Vous n'aviez pas été assez attentif, mais la minorité privilégiée. Car c'est cette minorité privilégiée qui participe davantage à la vie politique, qui finance les campagnes électorales et qui se livre à un lobbying permanent des présidents et des parlementaires. Résultat, le salaire minimum a perdu 30% de sa valeur depuis 1968. Aucune loi n'a aboli les dispositions antisyndicales existantes. Le capital est taxé deux fois moins que le travail.
Mais vous dites 40% pour le travail et 20% pour le capital.
32,6% pour le travail et 20% pour le capital, oui. Le Congrès et la Maison-Blanche font en ce moment de la surenchère sur le terrain de la réduction des déficits et n'ont aucune stratégie active de réduction du chômage. Donc tout ce qui était les priorités de la majorité des Américains ont été laissés de côté et on a fait le choix qui correspondait au choix de ceux qui reçoivent plus de 1 million de dollars par an. Et cette étude américaine concluait donc, à travers toutes ces données que je viens d'évoquer rapidement, que, je cite, « dans la plupart des cas, les préférences de l'écrasante majorité de la population semblent n'avoir aucun impact sur les politiques suivies ». Dernier élément, et là je vais le traiter beaucoup plus rapidement de cette analyse, j'ai parlé donc des inégalités, j'ai parlé de la mise en cause de la démocratie politique, maintenant la mise en cause de la souveraineté nationale. Quand, malgré tout, à la suite d'élections ou d'une décision d'un parti au pouvoir, de nouveaux choix politiques pourraient remettre en cause les priorités du capital, alors ce sont des pressions extérieures, les marchés financiers, les agences de notation, la Commission de Bruxelles, le FMI, qui remettent aussitôt les gouvernements dans le droit chemin. On dit aux électeurs que le changement, c'est maintenant, et on reconduit, pour l'essentiel, la politique du président sortant, après l'avoir battu.
Serge Halimi, après ce tour d'horizon, je dis assez noir, vous achevez votre article, page 8 du Monde diplomatique, en disant, je vous cite, « Un prochain article réfléchira aux stratégies politiques susceptibles de dégager des voies alternatives. »
Voilà, exactement. Un prochain article dont, dans quelques mois, nous élaborerons un certain nombre de pistes qui permettraient de sortir de cette nasse.
Pas un petit teasing, un bonus pour les auditeurs de là-bas si j'y suis ?
Non.
Merci Serge Halimi. C'est le blues du tas.
dans le monde du travail. L'école te fout sur la paille, t'as ta place. Es-tu prêt à être esclave pendant que le patron s'esclave? Avec des millions d'épargnes sur chacun de ses comptes épargne. Es-tu prêt à ce qu'on t'épargne? Rien, respect qu'on éloigne, hein? Pour les ressources humaines, tu n'es que du bon bétail. Bien, tiens, tiens, viens, viens, approche. Mais n'espère pas remplir les poches. Les principes auxquels tu t'accroches. Sache qui, si tout le monde dit aux heures subpayées, on renonce. Dès qu'on le peut, on dénonce. Le collègue pour qu'il retourne faire des petites annonces. 20 minutes pour manger et pas une pour se venger. 8 heures d'exposition à des gros cons pas prêts de changer. C'est la merde à l'usine, tu préfères l'intérim? Parfait, prépare-toi à dire adieu à tes rimes. T'as fait avec des gars pénibles passer des fins de mois terribles. Parce que travailler ou pas, chaque jour ce n'est pas toi qui décide. Faut de la maille et oui, au pire le RMI. Pour l'estomac qui crie, quand vivrai-je de mes écrits? Paraît que c'est la crise, faut croire que ça dépend pour qui. 14 000 euros mensuels bruts pour nos ministres. 172% d'augmentation pour Sarkozy. 7 000 pour les députés, plus 1400 à vie. C'est le blues, tu taf, c'est le blues. Qu'un jour t'écrases, mais pas trop se fout. Hélas, tu trépasses.
En contrepartie du RSA, il faut que chacun assume chaque semaine 5 heures de service social. Pas grand chose.
Laurent Wauquiez, 8 mai 2012.
Mais 5 heures qui montrent que en face des droits que vous avez, le fait que la société fait un effort pour vous, il y a des devoirs.
Autre article qui est à la une en première page de ce numéro de mai du Monde diplomatique, un grand dossier, une utopie à portée de main, l'idée d'un droit au revenu inconditionnel fait son chemin. Imaginez un revenu garanti pour tous. Un dossier mené par Mona Chollet. Et je ne vous cache pas que, première réaction quand on lit ce titre, tout de suite, on entend les cris d'orfraie. Comment ça, vous voulez subventionner les chômeurs, vous voulez venir en aide aux assistés? Alors Benoît Bréville, expliquez-nous le cheminement de cette idée. Et au passage, il y a un extrait d'un article d'André Gors du Monde diplomatique de 90 qui déjà posait les bases de cette réflexion au long cours, pour le coup.
Oui, parce que c'est une réflexion qui a commencé dès la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Bon, j'ai un peu de chance parce que je viens parler de l'article qui donne un petit peu de l'espoir en l'avenir après le tableau très sombre qu'a adressé Serge Halimi, puisqu'effectivement, on a fait un dossier sur ce revenu garanti qui était coordonné par Mona Chollet, qui malheureusement a pas pu venir aujourd'hui et qui signe le papier principal et le papier de cadrage qui explique un petit peu cette idée. Alors, comme vous dites, bon, c'est une idée qui dont on entend déjà les cris d'orfraie parce que ça bat en brèche une idée reçue et très très répandue, une conception du travail qui est largement partagée et qui veut que bon, on travaille et que c'est grâce à ce travail qu'on gagne de l'argent. Or, cette idée est si répandue que voilà, l'idée d'instaurer un revenu garanti passe pour une aberration totale. Et je pense que l'article de Mona montre bien à quel point eh bien, c'est pas tellement une aberration tout d'abord parce que c'est une utopie qu'elle qualifie d'utopie déjà là. Au sens où c'est déjà là parce qu'il y a des endroits dans le monde qui ont essayé de le mettre en place sur la forme d'expérience. Il y a un reportage sur l'Inde, sur une région.
Benjamin Fernandez, oui.
Fernandez qui montre les effets au niveau local d'une telle mesure. C'était appliqué en Namibie, au Canada, à une certaine époque dans le Manitoba. Donc c'est déjà une utopie déjà là parce qu'elle a déjà existé. Ensuite, elle est déjà là et on y pense moins parce qu'elle existe déjà sous des formes diverses. Effectivement, l'idée de découpler revenus et travail est quelque chose qui existe déjà quand on pense aux bourses étudiantes, aux congés parentaux, aux pensions de retraite, aux allocations familiales, aux minima sociaux. Eh bien, tous ces dispositifs permettent déjà de toucher de l'argent en étant découplés d'une activité rémunérée et donc du travail. En France, on estime que c'est environ 30% des revenus de la population qui proviennent déjà de ce type de dispositif. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est déjà tout à fait palpable. Alors maintenant qu'on voit que ce projet n'est pas inatteignable, il faut d'abord commencer d'abord par distinguer deux formes de revenus garantis, parce qu'il existe un revenu garanti de droite qui était traité par un article de Pierre Rimbert, un revenu de droite donc en fait qui est défendu notamment par des économistes libéraux comme Milton Friedman, qui octroie un revenu d'un niveau insuffisant pour vivre, tout en permettant d'échapper à la pauvreté absolue.
C'est-à-dire qu'il y a juste la tête qui sort de l'eau, voilà. Juste assez pour respirer.
Ainsi, grâce à lui, personne ne se retrouve complètement sur le bord du, enfin, à l'écart du jeu. Personne n'a plus rien à perdre, ce qui permet en quelque sorte de préserver, enfin, de sauvegarder le système économique. Il laisse aux gens la possibilité de choisir de travailler, mais surtout, il laisse aux employeurs, au système économique en général, la possibilité de ne pas faire travailler tout le monde si on n'a pas besoin. Donc, ce revenu garanti crée une sorte de réserve perpétuelle de main-d'œuvre. Or, nous, évidemment, ce qui intéressait le monde Diplo et Mona, c'est évidemment le revenu garanti de gauche. Alors de quoi s'agit-il? Comme je le disais, c'est né après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et ça a rencontré assez rapidement un assez large écho, puisqu'en 68, il y a comme une pétition de 1200 économistes de renom, dont James Tobin, Galbraith ou Paul Samuelson, qui ont signé un appel en ce sens. George McGovern, aux élections de 1972, avait aussi inscrit cette mesure dans son programme. Ensuite, elle s'essaima à travers le monde, en Allemagne, en Belgique, en Suisse. Alors, grosso modo, dans les grands traits communs, il s'agirait d'une allocation mensuelle qui serait donc d'un montant suffisant pour vivre. Donc évidemment, qu'est-ce qu'un montant suffisant pour vivre ? Ça, le débat reste ouvert. Donc cette allocation serait versée à chaque individu, donc sans aucune condition de ressources, c'est-à-dire les riches comme les pauvres, de la naissance à la mort, donc ça c'est important à préciser. Aucune condition ni contrepartie ne serait exigée, on ne demanderait pas comme pour le RSA de faire des efforts, de montrer sa bonne volonté pour trouver un emploi, etc. Et il serait surtout cumulable avec les revenus du travail. Bon alors, dit comme ça, ça peut sembler être une solution miracle. Il faut bien savoir que ça n'en est pas vraiment une, parce que bon, c'est pas, ça ne mettra pas à bas le système capitaliste, ni le système de finances mondialisées. Il ne permettra pas non plus de supprimer les inégalités sociales, même si ça pourrait permettre de les réduire. Mais si ce n'est pas une solution miracle, ça présente tout de même un certain nombre d'avantages, dont certains sont moins évidents que d'autres et peuvent même être insoupçonnés. Bon, évidemment, l'avantage le plus évident, c'est que chacun pourrait désormais faire ce qu'il souhaite de sa vie, c'est-à-dire travailler, jouir de son temps ou choisir de jouir de son temps libre, tout en ayant du coup un niveau de consommation qui serait moindre, ou alors alterner les deux, travailler de temps en temps et puis arrêter, etc. Ça modifierait à la fois le rapport au temps, le rapport au travail, le rapport à la consommation, le rapport à ce qu'on peut considérer comme étant socialement utile ou inutile. Plus personne ne serait obligé d'accepter une tâche pénible pour un salaire de misère, ce qui donnerait du coup un poids lors de négociations face aux employeurs, parce qu'à partir du moment où obtenir un emploi n'est plus une condition à sa survie, eh bien on peut refuser d'obtenir un emploi, donc on peut exiger de plus importants avantages. Un deuxième avantage qui est moins évident, c'est qu'en normalisant les périodes d'inactivité, on contribue ainsi à faire disparaître le chômage comme problème. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a tout un tas de politiques qui sont les politiques de plein emploi, qui visent à inciter les entreprises à embaucher, avec l'idée sous-jacente que la société doit pouvoir fournir un emploi à chacun. Donc là, en normalisant les périodes d'inactivité, un petit peu sur le modèle des intermittents du spectacle en quelque sorte, on supprime le chômage comme problème. Et c'est une conséquence assez évidente, c'est qu'on pourrait économiser toutes les sommes qui sont investies dans ces politiques de l'emploi. C'est-à-dire tous ces cadeaux octroyés aux entreprises pour les inciter à embaucher, donc les exonérations fiscales, les exonérations de cotisations sociales, etc., qui pourraient être supprimées si on ne fait plus du plein emploi un objectif. Il faut tout de même savoir que tous ces cadeaux aux entreprises représentent en France plus de 30 milliards d'euros par an. Donc ce serait un gain qui permettrait notamment de financer cette allocation universelle.
C'est ça, parce que c'est la question que j'allais vous poser, mais où vous trouvez l'argent pour payer tout le monde à rien faire ?
Alors voilà, ça c'est effectivement la question parmi les critiques qui sont adressées aux revenus garantis. On se dit, mais ce serait totalement impossible à financer. Et dans ce dossier, outre le reportage, l'article de Mona, il y a aussi un article de Baptiste Milondo qui essaie d'évoquer différentes pistes pour financer ce revenu garanti. Et on voit à la lecture de l'article que la France, par exemple, aurait tout à fait les moyens d'assurer à tous ses résidents un revenu garanti. Alors comment ? Déjà, une des premières solutions évoquées, qui est sans doute une des moins évidentes, c'est la part d'autofinancement par transfert budgétaire. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il existe déjà des fragments du revenu garanti aujourd'hui. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les bourses, les aides au logement, les subventions diverses, diverses formes de prestations sociales, pourraient être remplacées par ce revenu garanti. Il faut bien savoir que toutes les prestations sociales ne pourraient pas être garantie, il faudrait préserver le système assurantiel qui est financé par la cotisation, donc la sécu, les retraites. Mais par contre, un certain nombre de prestations sociales financées par l'impôt pourraient être remplacées avantageusement par le revenu garanti. Et selon les arbitrages, ce qu'on supprimerait ou ce qu'on garderait, eh bien cette part d'autofinancement pourrait représenter jusqu'à un tiers du revenu garanti. Donc déjà, on a déjà un tiers qui est assuré. Et ensuite, pour les deux tiers restants, l'article évoque différentes pistes. Alors, parmi les pistes citées, il cite la création de nouvelles taxes ciblées, donc des taxes sur la pollution, la taxe Tobin sur les transactions financières, la taxe Keynes sur les transactions boursières. Donc cette solution présenterait l'avantage de faire payer les riches et de sanctionner des pratiques que l'opinion publique réprouve, c'est-à-dire la pollution, la spéculation, etc. Mais elle induit une limite, puisque à faire dépendre, par exemple, le revenu garanti de la taxe Tobin, eh bien, pour avoir ce revenu garanti, il faudrait que les gens continuent à spéculer. Voilà. Donc il y a un aspect assez paradoxal, donc ce serait une mesure nécessairement transitoire. Mais c'est envisagé comme tel dans l'article. Ensuite, une autre partie de la solution pourrait être d'augmenter la TVA en créant une TVA à taux très fortement différencié en fonction des produits de première nécessité, de consommation courante ou de luxe. Et bon, cette solution présente un petit peu la même limite que la solution précédente, c'est qu'elle serait aussi transitoire parce que en finançant le revenu garanti par la TVA, on le finance par la consommation. Donc si la consommation baisse, eh bien du coup les revenus disponibles pour le revenu garanti baissent. Et c'est pour ça que vient la troisième solution qui est de s'appuyer également sur la taxation des tranches supérieures du revenu, la taxation du patrimoine et l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Alors à elle seule, aucune de ces solutions ne suffirait, mais combinées, on voit qu'elles pourraient permettre de financer ou d'approcher le financement de ce revenu garanti qui est bel et bien, donc, comme le titre de dossier l'indique, une utopie à portée de main.
Donc si je résume, vous voulez prendre des sous à Bernard Arnault pour après lui verser une allocation mensuelle, la même que Jean-Paul Duchemin, chômeur de son État.
Exactement.
Peut-être qu'il ne va plus vouloir partir en Belgique, alors après, s'il y a cette manne qui lui tombe du ciel.
Je crois qu'on lui prendrait davantage qu'on ne lui donnerait sous forme de revenus garantis.
Nous allons certainement vers des temps difficiles, pleins de conflits, mais qui ont au moins ceci de passionnant, que nous savons que des possibilités de libération, d'émancipation, de développement, d'enrichissement de la vie s'offrent à nous qui n'ont jamais existé avant.
André Gorz, 1990.
Nous savons qu'il serait possible, par exemple, de réduire la durée du travail de façon à ce que chacun puisse avoir plusieurs vies. Non seulement plusieurs vies l'une à côté de l'autre, une vie personnelle, conviviale, de citoyen, de militant, de parent très développé, mais aussi plusieurs vies successives.
Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ?
Vous pouvez, comme l'ont fait les femmes en République fédérale d'Allemagne, exercer une pression irrésistible sur les forces politiques dominantes pour qu'elles acceptent l'idée que le travail, c'est pas nécessairement le travail rémunéré, mais qu'il y a d'autres activités qui sont humainement enrichissantes et socialement productives et qui sont des activités qui se déploient qu'en dehors de la sphère du travail rémunéré. Donc que le droit de tout citoyen, si droit de la personne il doit y avoir, doit comporter le droit de ne pas travailler pendant de longues périodes tout en continuant d'être payé. Parce que cela est essentiel au développement de la personne.
Toujours au sommaire de ce numéro du Monde diplomatique de mai, un article de Dorothée Thiénot sur une situation qui est si loin et pourtant si proche, puisque nos troupes sont actuellement en train de revenir du Mali, c'est l'armée malienne. Comment ça se passe dans le désert après l'opération Serval et qu'est-ce qu'elle met à jour sur l'état des forces? Quelle tournure peut prendre la situation une fois que l'armée française se sera partiellement retirée, puisque maintenant on sait qu'on va rester au Mali? Pour en parler de cet article de Dorothée Thiénot, je me tourne vers vous, Anne-Cécile Robert.
Et nous publions un reportage de Dorothée Thiénot, qui est une journaliste qui habite le Mali et qui a fait un vrai reportage, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue par ses propres moyens dans le nord du Mali. C'est pas une journaliste embarquée, faut le souligner, d'autant plus qu'elle a travaillé dans des conditions difficiles, sous la pression et même les menaces de l'armée malienne. Elle a été réveillée un matin à l'aube et on l'a mis dans un bus pour l'obliger à quitter Gao et l'a renvoyée à Bamako. Donc il faut lui rendre hommage de ce travail qu'elle a effectué sur le terrain. Et l'idée du reportage est évidemment venue du fait que, quand on parle de la situation au Mali, il y en a que pour l'armée française, qui effectivement a joué le rôle clé de chasser les islamistes. Mais à entendre ces commentaires, on se dit, mais il n'y a pas d'armée au Mali, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus de soldats.
Si, il y a les Tchadiens.
Alors voilà, alors c'est soit les Français, soit les Tchadiens qui ont fait, paraît-il, des miracles dans le nord du Mali.
Pendant cette offensive dont on n'a vu aucune image, dont on a si peu vu en quoi ça consistait.
C'est tout à fait étonnant qu'à notre époque, on puisse encore mener des opérations de cette envergure avec autant de conséquences en permettant à l'armée et au pouvoir public de contrôler toute l'information. Au passage, vous avez raison de citer les Tchadiens, parce que parmi les inconvénients de cette opération française au Mali, il y a la remise en celle, si j'ose dire, du gouvernement tchadien d'Idriss Déby, qui est un gouvernement corrompu, qui est une dictature france-africaine de la pire espèce, qui est régulièrement mise en cause par les associations et par les organisations internationales, et qui, grâce à ses performances au Mali, se retrouve tout d'un coup dans le camp des gentils, et on oublie un petit peu ce qui se passe au Tchad. L'armée malienne, il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais laisser évidemment vos auditeurs lire le reportage de Dorothée Thiénot. Simplement, on aurait tort de croire que les incapacités ou l'inefficacité de l'armée malienne ne sont dues qu'à un manque de moyens. C'est vrai qu'il y a un manque de moyens certains, en matériel, en logistique, mais il y a surtout un problème profondément politique et social, c'est-à-dire que c'est une armée qui a été pratiquement désavouée par le gouvernement de son pays depuis des années, qui n'a pas été soutenue par son gouvernement, qui a été envoyée au feu contre les djihadistes sans soutien, et avec même parfois ce que les militaires ont considéré comme des coups de poignard dans le dos, puisque au nom de la réconciliation avec les Touaregs, on a fait des ponts d'or aux anciens miliciens Touaregs qu'on a intégrés dans l'armée malienne en leur donnant des primes, des moyens, tandis que les soldats maliens du rang étaient traités moins que rien, n'avaient pas de promotion, n'avaient aucune prime ni rien. Donc il y a un ressentiment qui est monté comme ça depuis des années, et que le dernier président démocratiquement élu du Mali, Amadou Toumani Touré, a envenimé au lieu d'apaiser, puisque il a pensé parer au plus pressé en continuant à choyer les réintégrer, comme on dit, des anciens rebelles Touareg, en laissant de côté l'armée d'active. Donc Dorothée Thiénot est allée à la rencontre de ces militaires à qui elle a donné la parole. Alors au début, les gens sont un peu méfiants, ils n'osent pas trop lui parler, puis après, en poussant un petit peu, ils se lâchent. C'est ça qu'on a appelé le reportage le blues de l'armée malienne, c'est qu'ils expliquent, ça fait des années qu'en fait ils ont des ressentiments, ce qui explique que cette armée qui au départ est quand même une armée démocratique, il faut se souvenir qu'en 1993 c'est l'armée qui a renversé la dictature de Moussa Traoré et qui a transmis ensuite le pouvoir aux civils, donc une espèce de coup d'état démocratique, cette armée a soutenu le coup d'état de mars 2012, par du capitaine Sanogo, par ras-le-bol. Donc elle a complètement viré...
C'est ça qui a précipité la situation avec le changement d'effet.
Voilà, tout d'un coup, il y a eu un renversement alors que le gouvernement malien était perçu comme un des gouvernements les plus stables, d'une démocratie plutôt exemplaire. Enfin bon, fallait un peu lire le monde diplomatique sans doute pour savoir que tout ça n'était qu'une façade. Mais cette armée, donc du coup, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle change d'avis et qu'elle soutienne un coup d'État. C'est que ça vient depuis très longtemps. Et sans doute, la France est là pour longtemps au Mali. Hein, l'Assemblée nationale a confirmé dans un enthousiasme bouleversant le maintien de la présence de 1000 hommes en permanence au Mali, en nous disant qu'il s'agit à terme de passer la main à l'armée malienne. Mais on peut douter de l'échéance, puisque non seulement il y a des problèmes matériels, comme on le disait, à l'armée malienne, mais il y a surtout un problème politique, c'est qu'il faut reconstruire une société politique, reconstruire une vie démocratique au Mali, après des années de décomposition, de déliquescence et de ressentiment de la part de tout le monde, parce qu'on parle des militaires, mais ils sont représentatifs d'une population qui se sent complètement abandonnée.
D'autant qu'il y a maintenant il y a une perte de confiance vis-à-vis de ces militaires, puisque dans l'article on décrit comment les habitants de Gao en particulier ont très mauvaise d'avoir vu ces soldats censés les défendre, jeter leurs armes et leurs uniformes au moment de l'offensive et partir les premiers.
Voilà, les militaires, au lieu de faire face à l'offensive, ils ont tout laissé en plan et ils sont partis. Et du coup, les habitants se sont mis à créer des milices pour essayer de se défendre, des petits groupes d'habitants avec des armes qu'on trouve de ci, de là. Il y a aussi ça à reconquérir, c'est que maintenant, la population ne pense pas que le secours puisse venir de l'État. Et ils font confiance à des mécanismes plus traditionnels, à l'autodéfense, ce qui rajoute encore à la décomposition de la société.
D'où ce blues malien. Merci Anne-Cécile Anvers.
Find out Jim Buck through the bomb of coke. Bamako. Timbuktu to Bamako.
En dernière page de ce numéro du Monde diplomatique, un article que vous avez co-signé Pierre Rimbert avec Razmig Kocheyan, qui s'appelle « Le carnaval de l'investigation ». Et à cette occasion, je dois faire une autocritique là, devant la rédaction du Monde diplomatique au quasi complet. Je dois reconnaître que dans ma naïveté, j'ai croisé dans les couloirs de Radio France il y a quelques jours Edwy Plenel, et bêtement, je l'ai félicité. Je lui ai dit « Bravo, vous avez sorti l'affaire Cahuzac ». Et alors là, maintenant que je lis votre article, Pierre Rimbert, je mesure l'étendue de l'autocritique que je dois faire. Alors expliquez-moi ce dont il s'agit, ce que révèle l'affaire Cahuzac.
Oui, c'est un sentiment assez courant de se réjouir de ce genre d'affaires, l'affaire Cahuzac, l'affaire Guéant, les révélations s'enchaînent.
Des puissants qui vacillent.
Voilà, des puissants qui semblaient flotter un peu au-dessus de la société. Tombent de leur piédestal, mordent la poussière, et il est vrai que quand le chômage explose, quand les suppressions d'emplois se multiplient, et quand les perspectives de transformation sociale ne sont pas chatoyantes, on peut éprouver une sorte de satisfaction à ce que justice soit faite, on peut se sentir même un peu vengé hein, au spectacle de la déconfiture de ses dirigeants, puis on peut dire que c'est toujours ça de pris. Hein. Mais compte tenu aussi de la place qu'occupent désormais ces révélations, à la fois dans l'espace médiatique, mais aussi dans le milieu politique, on peut, et je pense qu'on doit, s'interroger sur le journalisme d'investigation. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quelle est sa philosophie implicite? Et bon, si je vous dis journaliste d'investigation, vous allez peut-être penser à l'affaire du Watergate.
Ah oui.
Donc voilà, c'est une image assez positive. Deux journalistes du Washington Post qui révèlent un scandale d'État, lequel va conduire à la démission d'un président de la République américaine. Bon, une image assez favorable.
Qui a bénéficié à tous les journalistes du monde entier depuis.
Qui depuis s'en prévalent. Il y a une tradition française de journalisme d'investigation, depuis l'après-guerre, une tradition à bas bruit, hein, Jacques de Rogy, l'affaire Ben Barka, etc., le canard enchaîné, les diamants de Bokassa. Mais ce genre journalistique va connaître un essor, une montée en puissance, à un moment très particulier, ouais. Qui est celui des années 80. Et il y a quelques années de cela, un groupe de sociologues qui travaillait avec Pierre Bourdieu a essayé de montrer pourquoi ça s'était passé à ce moment-là. Et ils avaient mis au jour trois raisons. La première concernait la magistrature et les transformations de la magistrature avec l'arrivée dans la profession de jeunes juges d'instruction qui étaient imprégnés de l'esprit de 68, avec une humeur anti-institutionnelle, syndicat de la magistrature par exemple. Et ils étaient en lutte permanente contre leur hiérarchie, contre le pouvoir politique. Et pour conduire cette lutte, ils n'hésitaient pas à faire fuiter des documents, des procès-verbaux d'instruction à des journalistes. Et pour ces journalistes, c'est du tout cuit. Hein. Vous avez une telle pièce, vous la publiez. À tel point que Daniel Carton, qui est un ancien journaliste du Monde et Nouvel Observateur, ironisait un peu sur le travail d'enquête de certains de ses collègues en expliquant, je le cite, « Trois bons numéros de fax d'avocats ou de juge d'instruction, vous transforme en journaliste d'investigation. »
À ce compte-là, c'est...
Alors, il y a une deuxième transformation qui explique l'essor de ce genre journalistique et qui concerne les médias eux-mêmes. Ça, je crois que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, connaissent cette dimension. Les années 80 et 90, c'est le déchaînement de la concurrence entre des canaux d'information toujours plus nombreux, toujours plus rapides, à la radio, à la télévision. Et d'ailleurs, à ce titre, la situation n'a fait qu'empirer avec l'apparition des chaînes de la télévision numérique terrestre, des journaux en ligne, où les réactions en temps réel sont devenues un genre dominant. Et cette concurrence accrue va encourager la recherche obsessionnelle de nouveaux scoops qu'on pourra utiliser pour promouvoir ce que le vocabulaire managérial appelle la marque du média, qui a sorti tel ou tel scoop.
Il faut nourrir la bête, quoi.
Il faut nourrir la bête, il faut vendre, il faut mettre en scène des rebondissements permanents, tenir en haleine l'auditeur, le téléspectateur et le lecteur, puisque cette tendance va, au milieu des années 90, gagner la presse écrite. Et l'un des traits distinctifs du journaliste d'investigation, c'est la personnalisation des protagonistes. Une personnalisation qui rentre tout à fait en résonance avec cette évolution générale des médias et aussi avec l'évolution du monde politique. Les enquêteurs, contrairement à un journaliste ordinaire, un rubricard, les enquêteurs se mettent en scène. Ils vont théâtraliser un affrontement entre deux personnalités stéréotypées, un peu comme au catch, vous avez le bon contre le méchant, l'ange blanc contre le
bourreau de Béthune.
Voilà, exactement. Et là, c'est le journaliste contre le représentant du pouvoir. Hein, ça a été dans les années 80, Jean Montaldo ou Edoui Plenel contre François Mitterrand, une scénographie qu'on a encore dans la tête alors qu'il s'est passé.
Péan aussi. Hein.
Voilà, Pierre Péan. Et aujourd'hui, c'est Fabrice Arfi contre Jérôme Cahuzac.
De Mediapart.
Voilà, alors c'est drôle d'ailleurs, vous précisez Fabrice Arfi de Mediapart. C'est important de le préciser parce que Edoui Plenel a lui-même été tellement présent devant les micros et les caméras que la personnalisation a également joué dans la défaveur des journalistes de Mediapart. La personnalisation joue aussi à l'intérieur des médias pour concentrer la lumière vers une personnalité, en l'occurrence Plenel. Et cette dramaturgie ritualisée a tendance à réduire les enjeux politiques à des querelles de personnes. Bon, c'est un processus qui est assez connu, hein. Personnalisé, c'est dépolitisé. Alors il y a une troisième transformation qui explique les succès du journalisme d'investigation. Je pense que c'est la plus importante, c'est l'affaiblissement, voire l'effacement, des grands clivages idéologiques au cours des années 80. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre le recentrage politique des années 80 et le journalisme d'investigation ? Eh bien justement, ce recentrage va avoir tendance à déplacer les questions, les enjeux liés aux luttes politiques vers des enjeux liés à la morale. Hein, les questions de moralité publique vont peu à peu supplanter les questions idéologiques. Et quand les luttes d'éthique remplacent les luttes politiques, eh bien on va s'intéresser aux qualités personnel des dirigeants, plutôt qu'à leur aptitude, par exemple, à représenter un groupe social. On va débattre de leur honnêteté, de leur probité, plutôt que de la solidité de leurs convictions ou de leurs convictions mêmes. Et là où, pour le dire vite, naguère des intellectuels pouvaient cadrer le débat public en critiquant la structure d'un régime économique au nom de la souveraineté populaire, eh bien, dorénavant, des journalistes vont critiquer le manque de transparence de ce régime, au nom non plus de la souveraineté populaire, mais de l'opinion publique. Et dans cette configuration, dans cette nouvelle configuration, les journalistes d'investigation occupent une place qui est tout à fait centrale, puisqu'ils deviennent les justiciers de la morale publique. Et là, on devine un peu ce qu'est, oui, la philosophie spontanée, la philosophie implicite du journalisme d'investigation. On a des individualités corrompues qui pervertissent le système économique et social, et en révélant cette corruption à travers les affaires, la presse oblige le régime à s'amender, à se réformer. Et de fait, il faut le reconnaître, il est très probable que sans l'enquête conduite par Mediapart, le ministre du budget serait encore un fraudeur fiscal. Mais si on prend...
Oui, s'il a fallu attendre Jean-Michel Apathy pour le faire tomber, on y serait encore.
Exactement. Mais en même temps, quand on prend la mesure des soubresauts financiers, sociaux que nous sommes en train de vivre, on peut s'interroger et se demander, a-t-on affaire simplement à une question de moralité publique ou fait-on face à quelque chose de beaucoup plus profond ? Alors, le propos de cet article que nous avons fait avec Razmik Cheyan n'est pas du tout de dire que la révélation des malversations est inutile. Elle peut faire tomber un ministre, elle peut faire trembler un gouvernement, elle peut même faire naître un débat sur les paradis fiscaux. Mais bon, Bernard Cazeneuve a remplacé Jérôme Cahuzac, les ministres ont publié une partie de leur patrimoine, et après...
Toujours au nom de la moralisation.
Et de la transparence. On a retrouvé un livre de Denis Robert, que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, connaissent bien, qui date de 1996. C'était un livre un peu désenchanté. Denis Robert est un journaliste d'enquête, que certains pourraient qualifier de journaliste d'investigation. Et 96, la France vient d'être secouée par 4 années consécutives de scandales politico-financiers. Denis Robert a contribué à révéler certains de ces scandales. Et il constatait que malgré ces révélations, malgré les grands débats sur l'éthique, malgré les règles de moralisation de la vie publique, eh bien, l'économie grise prospérait. Et je cite Denis Robert, « Rien ne change, sauf des noms et des visages. Les cartes se redistribuent. Le système a une increvable capacité à s'autoréguler. Les journalistes dans mon genre ne seraient-ils pas de simples agents d'autorégulation ?» Fin de citation. Denis Robert écrivait cela il y a 17 ans. Et 17 ans plus tard, en pleine tourmente financière et sociale, on peut peut-être comprendre que le principal problème auquel on a affaire n'est pas dans l'ordre de la moralité publique, c'est l'ordre économique lui-même.
C'était les les débats du Diplo, un entretien de Guy Vanctil. Merci à Serge Halimi, Benoît Bréville, Anne-Cécile Robert, Stéphane Thévenet et Pierre Rimbert. Vous retrouverez toutes les informations sur franceinter.fr et sur le site la-ba.org, ainsi que sur la page Facebook de La Basse, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Michel Thomas, au montage Franck Aderer. Cette émission a été réalisée par Lucie Acoun et Chloé Sanchez et préparée par Pierre-Yves Bulteau. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de La Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
France Inter présente Sous surveillance, le nouveau film de Robert Redford au cinéma le 8 mai.
Mr. Grant, I'm just trying to put the pieces together.
I don't have time for this.
Un avocat, ancien activiste politique, voit son passé ressurgir quand un jeune journaliste se met à enquêter sur lui.
Kids our age were being murdered by our government.
We made mistakes. We were right.
Sous surveillance, un thriller politique sur les illusions perdues des idéalistes des années 70 avec Robert Redford, Shia LaBeouf, Susan Sarandon. Retrouvez Sous surveillance dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Roi sans carrosse d'Oxmo Puccino, une des plus belles plumes de la chanson française moderne.
Si c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc.
Oxmo Puccino, en concert exceptionnel au Zénith de Paris le 1er juin et en tournée dans toute la France.
Une vie de famille acrobatique.
Retrouvez Oxmo Puccino dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Carrefour de l'Odéon dans un instant avec Frédéric L'Odéon. Bonne fin de journée, l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations, Maxime Deps.
Aux États-Unis, les enquêteurs livrent des détails dans l'histoire incroyable de ces trois filles retrouvées vivantes à Cleveland dans l'Ohio alors qu'elles étaient portées disparues depuis 10 ans. Elles étaient ces 10 dernières années séquestrées dans une cave. 3 hommes, 3 suspects ont été arrêtés. 3 frères font savoir cet après-midi les autorités. Autorités qui confirment qu'un enfant est bien né de cette captivité. Une petite fille aujourd'hui âgée de 6 ans qui a été découverte dans la maison où étaient retenues les 3 femmes. Un effet d'annonce sans doute de la part du Kremlin. Les ministres russes n'auront plus le droit de détenir de comptes à l'étranger ni de disposer d'investissements boursiers hors de Russie. Vladimir Poutine vient de promulguer une loi en ce sens. Objectif officiel, lutter contre la corruption et renforcer la transparence au sein du gouvernement. Seul bémol et de taille, l'amendement ne proscrit cependant pas, comme envisagé un temps par les députés, de détenir des biens immobiliers à l'étranger. Le nouvel appel d'Al-Qaïda a frappé les intérêts français dans le monde. Dans une vidéo mise en ligne aujourd'hui sur Internet, un responsable d'ACMI dénonce une nouvelle fois la croisade menée par la France contre les musulmans et l'occupation par nos soldats d'une terre de l'islam, référence au Mali, des menaces que François Hollande prend très au sérieux. Le chef de l'État qui, pour la première fois publiquement, dans une interview à Paris Match, évoque l'hypothèse d'un remaniement. Oui, un jour, des choix et des aménagements auront à être faits et non, aucun ministre n'est protégé. Ce remaniement, affirme François Hollande, viendra en son temps, mais pas tout de suite. Pour l'instant, il n'est pas d'actualité. Un nouveau coup de colère dans le milieu pénitentiaire. Une cinquantaine de surveillants ont bloqué aujourd'hui les accès à la prison de Nancy-Maxéville, mouvement qui visait à contester les conditions de travail et notamment le trop gros nombre d'heures supplémentaires. Selon les protestataires, la situation dans la nouvelle prison de Nancy est comparable à celle prévalant à l'île Sequedin où une centaine de leurs homologues avaient manifesté hier pour réclamer une amélioration de la sécurité. Les grévistes de PSA Aulnay veulent que leur employeur efface l'ardoise, que ceux qui bloquent le site d'Aulnay depuis plus de 3 mois ne soient pas inquiétés par la direction à l'avenir. Les salariés demandent à l'État d'intervenir dans le dossier pour s'en assurer. Afin de se faire entendre, des dizaines d'entre eux ont ainsi occupé aujourd'hui la direction du travail à Paris. Le ministère du Travail aurait obtenu de PSA qu'il remette un texte mardi. Ça reste à voir, répond la CGT. Le prix Goncourt de la nouvelle, enfin, il a été décerné aujourd'hui à Fouad Laroui, l'écrivain également économiste, récompensé pour l'étrange affaire du pantalon de Dasoukine, publié aux éditions Julliard. Nouvelle sous forme de métaphore, elle raconte comment un jeune fonctionnaire marocain venu à Bruxelles pour acheter au meilleur prix du blé européen se fait voler son unique pantalon et réussit malgré tout sa mission.
Demain, à partir de 22h, France Inter, en direct des Nuits Sonores à Lyon. Laurence Pierre.
Au cœur de cet événement musical, électro et pluriculturel, indépendant et exigeant, partout dans la ville, partout dans les jours et les nuits. En direct des anciennes usines Brossette, les concerts de Aluna George et Breton. La nouvelle scène anglaise, voulue et pensée par Pedro Winter.
France Inter, en direct des Nuits Sonores à Lyon. Une soirée présentée par Laurence Pierre, à suivre sur France Inter, demain,
de 22h à 1h du matin.
France Inter,
la voix est libre.
16h04, bientôt sur France Inter. Tout de suite, vous le savez, c'est Carrefour de l'Odéon et c'est bien sûr avec Frédéric Lodéon.
Merci Maxime Debs, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, à 16h30, je recevrai la très grande harpiste Marielle Nordman. Et pour l'instant, disque nouveau pour musique ancienne. Voici par exemple le tout jeune Mozart. En 1763, la famille Mozart est en tournée européenne. Oui, ça existait déjà. Elle est reçue chez Victoire de France, seconde fille de Louis XV. Et celle-ci est très belle. Elle touche assez bien le clavecin, comme on dit. Et puis elle s'est organisée aussi des petits concerts dans son salon. Et Mozart va écrire quelques petites pièces, notamment deux sonates pour le clavecin avec accompagnement de violon. C'est touchant quand même, la toute première sonate du petit Mozart. Et oui, c'est déjà vraiment de la musique. Thank you. Allegro molto, très rapide, de la première sonate pour clavecin avec accompagnement de violon de Mozart. Aujourd'hui, on dit plutôt l'inverse, on dit une sonate pour violon avec accompagnement de piano. On dit plus du tout accompagnement, d'ailleurs, on dit pour violon et piano. Mais à l'époque, c'était donc l'instrument à clavier qui était prédominant, c'est clair, dans l'appellation. Et on a entendu Stéphanie-Marie Degan au violon et Violaine Cochard au clavecin. Et contemporain de Mozart, présent sur le même disque, voici Jacques Dufly, né en 1715 et qui a été d'abord organiste en province, en région, comme on dit aujourd'hui. Puis il est venu s'installer à Paris pour se consacrer exclusivement au clavecin. Et il raconte lui-même, d'ailleurs, c'était pour ne pas s'abîmer les mains au clavier d'un orgue, clavier moins délicat que ceux du clavecin. C'est vrai qu'il faut beaucoup plus de force en général, pas toujours, mais enfin généralement, oui. L'orgue, c'est une machine puissante qu'il faut savoir mettre en route et en branle. Et il a fait des portraits musicaux, notre Jacques Dufly, par exemple, quand il écrit « La Madin », ça n'est pas une dame, non, simplement c'est l'abbé Madin qui était maître de musique à Versailles. Yeah.